Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis donc Jean-Marc Vittori, éditorialiste au quotidien Les Échos, et ravi d'être à nouveau au rendez-vous de cette matinale. Débat sur réduire la dépense publique sans freiner la croissance. Et je voudrais d'abord dire de quoi nous n'allons pas parler, afin de concentrer vraiment les échanges sur la question que je viens de citer. Donc nous supposons pendant 90 minutes que nous sommes d'accord sur deux propositions, même si ça n'est pas forcément le cas. Premièrement, les finances publiques ne peuvent pas continuer d'être en gros déficit éternellement. C'est intenable, il faut donc agir. Et donc la baisse de la dépense publique est l'un des leviers d'action. Hein. Il est rare dans un pays qu'on baisse la dépense publique simplement pour s'amuser, se distraire. C'est généralement parce qu'on a une contrainte et on suppose qu'on a cette contrainte et qu'on en tient compte et on agit en conséquence. La deuxième proposition, c'est qu'ensuite, il faut agir non seulement sur les impôts, même si on a eu un bel éloge de l'impôt à l'instant, mais aussi, et peut-être d'abord, sur la dépense publique. Alors, je sais, c'est un débat qui est très compliqué entre économistes. Longtemps, les économistes, des économistes plutôt, ont montré qu'il était mieux d'agir sur les dépenses publiques, on avait une contrainte budgétaire, et puis il y a eu des travaux plus récents du FMI, de la Banque Centrale Européenne, même qui montraient que dans certains cas, c'était mieux d'agir sur les impôts. Là, on suppose qu'on veut agir sur la dépense publique, même si des événements qui sont passés dans certains pays européens ont montré que quand on baissait trop brutalement la dépense publique, ça avait des effets très très sévères sur la croissance. Donc là, nous estimons qu'il est utile et souhaitable de réduire la dépense publique. Je le dis d'autant plus que l'un des intervenants à cette table ronde, j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a 20 ans alors qu'il faisait un rapport très intéressant expliquant pourquoi il fallait augmenter fortement la dépense publique avec un pacte d'investissement qui est un pacte d'investissement plus français qu'européen. Donc là, on dit il faut dépenser la dépense publique, il faut baisser la dépense publique. Et comment le fait-on ? Comment le fait-on en ayant le moins de dégâts possible sur la croissance ? Et encore une fois, l'expérience de ces dernières années a montré que ce n'était pas évident. Nous nous inscrivons donc dans la ligne de François Hollande il y a 18 mois, disant la dépense publique atteint aujourd'hui 57% de la richesse nationale. C'était 52% il y a 5 ans. Est-ce que l'on vit mieux pour autant ? Non. Ensuite, deux constats très vite. La dépense publique française est très élevée quand on compare par rapport à ce qui se passe à l'étranger, donc 57% du PIB encore en 2014. Au-dessus, il y a le Danemark à 58%, la Finlande à 59%, puis ensuite des pays un petit peu plus exotiques comme la Libye à 73%, les îles Tuvalu à 85%. Mais donc la France est parmi les pays développés, l'un des pays avec la dépense publique la plus forte. Et deuxième constat, il y a des raisons de penser que cette dépense publique n'est pas extrêmement efficace. Je ne parle pas des fameux ronds-points hein, qui sont maintenant dans le débat public pratiquement en permanence, mais je parle de la santé avec des dépenses publiques qui sont élevées et une espérance de vie qui n'est pas formidablement plus élevée qu'ailleurs. Je ne parle pas des États-Unis, je parle des comparaisons européennes. Je parle de l'éducation, on a des dépenses qui sont aussi assez fortes et des résultats dans les comparaisons internationales qui ne sont pas forcément à la hauteur. Je parle aussi du logement, hein, ou la dépense du logement. Alors, Claude Barthelon a dit que c'était important d'avoir de la dépense publique pour le logement. On a une dépense publique du logement qui est 4 fois plus forte que la moyenne européenne, sans que les Français soient apparemment 4 fois mieux logés. Donc on a là des vraies questions. Place au débat maintenant donc, vous pouvez poser des questions par SMS. Donc, nous avons 5 intervenants, 2 experts, quelqu'un qui était présenté sur le programme comme un expert mais qui est au moins autant un acteur, et puis 2 députés, l'un de droite, l'autre de gauche, qui vont réagir, rebondir, proposer. Et donc nous allons commencer avec Selma Mahfouz. Selma, vous êtes commissaire générale adjointe à la stratégie et à prospective économique. Vous avez beaucoup travaillé auparavant sur les questions sociales et l'emploi. À vous de nous dire donc comment réduire les dépenses publiques sans casser la croissance.
Merci. Donc merci pour cette invitation. Je vous propose de partir peut-être un petit peu en amont d'un constat qui est que les dépenses publiques ne sont pas au même niveau dans tous les pays, et d'une question qui est d'essayer de voir si on peut comprendre pourquoi. On a des dépenses publiques, vous l'avez dit, si on exclut les charges d'intérêt, les dépenses publiques primaires, hors charges d'intérêt, sont de 52% du PIB en France, 54% du PIB en France, contre 47% du PIB dans la zone euro, 7 points d'écart. 42% du PIB en Allemagne, 12 points d'écart. Première question, est-ce qu'on peut chercher à comprendre d'où viennent ces écarts ? Dans un deuxième temps, on regardera si des pays ont réduit les dépenses publiques significativement, fortement, sur des périodes courtes et comment ils ont fait, ce qui nous conduira à regarder plus précisément quel est l'impact sur la croissance. Donc, tout d'abord, pourquoi certains pays dépensent plus ? Pourquoi de tels écarts ? On peut penser à trois raisons principales. La première, c'est des choix collectifs. Certains pays, le président l'a dit, choisissent de socialiser davantage la dépense, d'avoir des dépenses d'assurance maladie, par exemple, entièrement prises en charge par la puissance publique. D'autres choisissent d'avoir un niveau de protection plus élevé, des prestations, des minima sociaux plus élevés. Donc, première raison, des préférences collectives. Deuxième raison, des différents objectifs de situation, structure de la population, situation économique. Et troisième raison, qui va être celle qui nous intéresse dans une perspective de réduction des dépenses, des différences d'efficacité de la dépense. Alors, parler d'efficacité de la dépense, et si plus précisément, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est pas seulement l'efficacité, mais l'efficacité coût, donc d'efficience de la dépense publique, est-ce que la dépense est efficace et au meilleur coût, ça suppose de définir cette efficacité. Qu'est-ce qu'une dépense efficace ? Une dépense efficace, a priori, c'est une dépense qui répond à ses objectifs. Encore faut-il que ces objectifs soient définis. Ils sont souvent multiples. On peut penser à la politique familiale. Les objectifs de la politique familiale sont... C'est un bon exemple de politique qui a des objectifs nombreux et parfois contradictoires. La natalité, la conciliation vie familiale, vie professionnelle, la lutte contre la pauvreté des enfants, la réduction des inégalités entre ménages ayant des enfants ou n'en ayant pas. Ces objectifs peuvent faire débat, ils peuvent être multiples. La question est aussi de savoir si ces objectifs peuvent être atteints par d'autres moyens que la dépense publique. On a des situations, je pense que les autres intervenants en parlons, où la dépense publique peut être une dépense que j'appellerais palliative, qui remédie à des imperfections, soit de marché, c'est l'exemple du logement, le prix de l'immobilier élevé, aide au logement élevé. Est-ce qu'on aurait un autre équilibre possible ? On peut penser à d'autres exemples dans ce domaine. Donc, une première question, c'est est-ce qu'on peut déterminer dans ces écarts de dépenses au niveau global qu'on observe, 12 points de PIB par rapport à l'Allemagne si on s'intéresse à la France, ce qui relève des trois facteurs. Il est clair que les conséquences à tirer selon que la raison d'une dépense plus élevée est liée à des choix collectifs, à des différences objectifs de situation ou à des moindres efficacités des dépenses ne sont pas les mêmes. Alors évidemment, un tel exercice est loin d'être facile. Il suppose de se mettre d'accord sur les objectifs des dépenses, comme je l'ai dit, d'avoir des données plus ou moins comparables, et il rencontre beaucoup de limites. Néanmoins, quand on regarde, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement ? On trouve un petit peu les trois. On trouve des différences objectifs de situation, on essaye de les corriger. Il y a des cas où, clairement, on a des préférences collectives différentes. Je prendrai l'exemple de la retraite. On a une part des dépenses de retraite socialisées. Les revenus des retraités, par exemple, sont nettement plus socialisés en France que dans d'autres pays. On a des dépenses de retraite globalement plus élevées, 3 points de PIB globalement par rapport à l'Allemagne. On pense qu'on a ici, en partie, un choix collectif. Dans le domaine de la santé, vous l'avez dit, on a à la fois des dépenses élevées, des bonnes performances. Maintenant, quand on essaye de comparer l'efficience de la dépense à d'autres pays, probablement une suspicion de gain d'efficience possible, de même dans l'éducation secondaire. Cette analyse de très top-down, on part des grandes masses et on va vers le détail, nécessite d'être confortée par une analyse plus détaillée des politiques. Alors, si on en vient au deuxième point, est-ce qu'on peut réduire la dépense ? On a le sentiment parfois qu'elle augmente continuellement. Au sein des pays de l'OCDE, sur la période 90-2007, 17 pays ont réduit la dépense publique en points de PIB d'au moins 3 points sur 3 ans. Quand on regarde les pays qui ont réduit leurs dépenses publiques de 3 points de PIB sur 3 ans, on en trouve 17. 17, c'est beaucoup. Alors, comment ils ont fait ? Évidemment, les expériences des différents pays ne sont difficilement généralisables. Les contextes économiques, politiques, sociaux sont différents dans les différents pays. Il peut être intéressant toutefois de regarder comment les différents pays ont cherché à surmonter les difficultés, notamment comment ils ont identifié comment générer des baisses importantes de dépenses significatives. Est-ce que les méthodes du rabot, comme on dit, c'est-à-dire une baisse uniforme de toutes les dépenses, X% sur toutes les dépenses, sont privilégiées dans ces épisodes de réduction de dépenses à des révisions stratégiques? Alors ce qu'on voit, c'est que dans la plupart des cas, on a quand même, quand on a une baisse significative des dépenses, des choix stratégiques, des révisions stratégiques des dépenses, donc un examen systématique des secteurs où la dépense peut être réduite ou doit être réduite, plutôt que des politiques de rabot. Est-ce qu'il faut appliquer ces politiques à tous les domaines, ou sanctuariser certaines politiques? En général, plutôt une application large, mais dans certains cas, des dépenses sanctuarisées, par exemple les dépenses d'éducation ou d'aide internationale au Royaume-Uni. Et puis évidemment, des questions sur les reports, sur d'autres dépenses, celles des collectivités locales. Et on pense par exemple au Canada. Intéressant de regarder aussi comment les pays s'y sont pris pour mobiliser les acteurs concernés, pour surmonter les asymétries d'informations qui existent au sein des acteurs publics, pour donner les bonnes incitations aux gestionnaires. Et puis, il y a la question de la mise en œuvre. Est-ce que la décision, est-ce qu'il faut tout décider d'un coup? C'est un petit peu ce qui ressort, que rien n'est décidé tant que tout n'est pas tranché, afin d'éviter les fuites, en quelque sorte. Mais par contre, une mise en œuvre étalée dans le temps, et la question de savoir si une réforme des dépenses doit occuper tout l'agenda politique. Elle demande certainement un crédit politique important, et dans de nombreux cas, l'agenda politique est focalisé sur cette question-là. Pas beaucoup de place pour d'autres priorités politiques en même temps. J'en viens à l'impact sur la croissance. Dans les épisodes dont j'ai parlé, on observe des différentes situations. Certains pays ont eu une croissance forte pendant la période de réduction des dépenses. Cette croissance a aidé à la réduction des dépenses dans le PIB. D'autres, une croissance plus modérée, pas de récession. C'est intéressant de regarder les contextes dans lesquels ces épisodes interviennent. Souvent, après une forte augmentation des dépenses et une dégradation des finances publiques, mais aussi après une récession ou au début d'une période de reprise, il est assez habituel, en fait, d'engager des baisses de dépenses dans le contexte dans lequel nous sommes. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les effets sur la croissance? Ce que nous dit l'économie, les études économiques existantes, c'est d'abord qu'en moyenne, les multiplicateurs, ce qu'on appelle les multiplicateurs budgétaires, sont proches de 1, on pourra y revenir, un peu plus élevé pour les dépenses que pour les recettes, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, qu'il y a des cas où ils sont faibles, voire nuls ou négatifs. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent réduire ces effets négatifs des dépenses sur la croissance? D'abord, ce qui se passe sur les recettes en contrepartie. On parle ici de baisse des dépenses. La question est une baisse des recettes accompagnant une baisse des dépenses, qu'elle soit immédiate ou anticipée, et notamment si les ménages sont un petit peu ricardiens, aura un impact significatif sur la croissance. De ce point de vue, l'ajustement actuel prévu en France a cette particularité qu'il se concentre sur la dépense, mais qu'il est accompagné d'une réduction simultanée des recettes, ce qui fait que l'ajustement global à venir est plus faible que l'ajustement observé sur les années passées. On pourra y revenir. Autre facteur qui atténue l'effet des baisses de dépenses sur la croissance, l'évolution des taux d'intérêt, qu'il s'agisse d'une réduction des primes de risque sur la dette ou d'une politique monétaire accommodante, et là aussi, je suis sûre que nous aurons l'occasion d'y revenir. Un autre facteur, ce sont les anticipations des agents, évidemment, que ce soit les ménages ou les entreprises, la nature des dépenses, qui a un impact à la fois à court terme, sur la demande potentiellement, et sur la croissance à long terme, et la crédibilité des programmes et des objectifs à moyen terme des institutions, ainsi que les réformes structurelles qui accompagnent les réductions de dépenses.
Merci Selma. Donc, vous nous avez campé le décor et bien montré les différents choix et les différentes explications aussi de ces dépenses. On va continuer d'explorer l'impact de leur réduction sur la croissance avec Patrick Artus. Donc, Patrick est directeur de la recherche et des études de Natixis. C'est un auteur prolifique qui publie des centaines de notes par an. Il a fait aussi une quinzaine de livres, dont le dernier s'appelle « Les apprentis sorciers, 40 ans d'échec de la politique économique française ». Donc, on va retrouver un peu ce dont il va parler maintenant. Et puis, un livre, parmi les autres livres qu'il a écrit il y a 10 ans, mais dont le titre montre qu'il n'est pas toujours pessimiste, qui écrit « La France peut se ressaisir ». Patrick, à toi de nous expliquer comment on peut baisser la dépense publique en se ressaisissant, y compris avec de la croissance.
Merci Jean-Marc. En introduction et peut-être en violation de tes consignes, j'aurais quand même reposé la question de savoir si le niveau de la dépense publique est un objectif en soi, ce qui est quand même absolument pas clair, je dirais. Comme on l'a tous dit, la composition de la dépense publique dépend beaucoup d'un pays à l'autre. Enfin, je ne crois pas que le niveau de la dépense puisse être un objectif en soi. Il me semble que les deux objectifs en soi que nous devons avoir, c'est la dette, je vais quand même en dire un mot, et l'efficacité de la dépense. Et si aujourd'hui, et ton raisonnement après est parfaitement clair, si aujourd'hui nous nous posons la question de la baisse du niveau de la dépense publique, c'est parce que nous avons un problème, un, d'endettement, et deux, d'inefficacité de la dépense. Mais il n'y a pas de norme optimale, il me semble, sur le niveau de dépense publique dans un pays, ça dépend de ce qu'on en fait, et ça dépend de la situation, de l'environnement économique. Alors, nous avons un problème de dette. Alors, vous savez qu'il y a deux économistes connus, qui sont Rogoff et Reinhardt, qui ont écrit un livre disant que dès que le taux d'endettement public dépassait 90% du PIB, on était mort, pour simplifier. Ce livre a été assez fortement discuté après, puisqu'il y avait quelques erreurs de calcul dans les tableaux. Mais cela étant, quand vous refaites sans erreur de calcul le travail de Rogoff et Reinhardt, vous trouvez qu'au-delà d'un certain niveau d'endettement public, il y a systématiquement un effet négatif sur la croissance dans la décennie qui suit. Je crois que c'est quelque chose qui est assez solide et qu'on comprend bien. Une dette publique élevée crée une fragilité, crée la nécessité de dépenser moins, rend extrêmement sensible à tous les chocs. Si vous avez une perte de croissance, si vous avez un choc sur les taux d'intérêt, les pays avec des dettes publiques élevées vont souffrir plus que les autres. Et je crois que nous sommes à un niveau de dette publique, d'abord pour lequel nous n'avons pas d'expérience. Nous ne savons pas, je crois qu'il faut le dire avec modestie, ce qui se passe quand les taux d'endettement public dépassent 100% du PIB, vont à 140% du PIB, comme ça va être le cas en Italie ou au Portugal. Quand on va à 180, on a le cas de la Grèce, on sait que là tout explose, mais nous allons dans des zones d'endettement public où il n'y a pas vraiment d'expérience historique permettant de savoir ce que sont les conséquences, mais qui sont probablement trop élevées. Donc je pense que notre contrainte est plus une contrainte d'endettement qu'une contrainte directement de dépenses. Deuxième point, peut-on essayer d'évaluer l'efficacité de la dépense ? Alors nous avons fait, nous, un travail qui est assez simple, mais en même temps compliqué, je dirais, d'un point de vue quantitatif, qui est d'essayer de regarder ce qu'est le niveau de dépense publique le plus petit qu'on puisse avoir pour une qualité donnée des services publics. Et la qualité des services publics, on peut la mesurer par une batterie d'indicateurs qui portent sur tous les domaines, la santé, l'éducation, la sécurité, le transport, etc. Quand vous faites ce travail, vous trouvez que, compte tenu du niveau de qualité des services publics de la France, et quand vous comparez ceci aux pays qui sont les plus efficaces dans l'usage des dépenses publiques, il semble que nous ayons en France un niveau de dépenses publiques qui est 10% plus élevé que celui qui devrait pouvoir permettre d'avoir la même qualité de service public. Donc il semble bien qu'il y a un problème d'efficacité de la dépense, de l'ordre de 6 points de PIB sur l'ensemble des dépenses. Voilà. Donc il faut réduire la dépense publique, mais à nouveau, ce n'est pas un objectif en soi, il me semble. C'est un objectif indirect. Alors, peut-on le faire sans perdre de la croissance ? Alors j'ai fait comme le même travail probablement que celui qui a été exposé à l'instant. J'ai regardé tous les épisodes depuis 1980 de pays qui ont réduit leurs dépenses publiques et leurs déficits publics sans perte de croissance, au contraire, et en faisant baisser le chômage au moment où ils réduisaient leur déficit public et leurs dépenses publiques. Vous trouvez 8 épisodes de ce type, hein, de pays qui ont réussi à réduire fortement leur déficit public en ne perdant pas de croissance, au contraire, et en n'ayant pas davantage de chômage, au contraire, hein, sont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Danemark, la Finlande, l'Italie, l'Espagne, la Suède et le Canada. Alors comment ont-ils fait dans 3 des cas, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni, ils ont bénéficié simplement d'un environnement favorable qui leur donnait de la croissance, et la croissance a permis effectivement de réduire le déficit public. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient de la stratégie utilisée. Et dans les autres cas, il y a systématiquement l'association de 2 stratégies. Une stratégie qui est de baisser la dépense publique sans monter la pression fiscale, et ceci conduit dans tous ces pays à une baisse de l'épargne. Et ceci avait été beaucoup regardé à l'époque, hein, par un certain nombre de nos collègues économistes, hein, Alesina, Perotti. Et on appelle ça maintenant, dans le jargon affreux des économistes, parce qu'on peut, difficilement faire pire, hein, ça s'appelle les consolidations fiscales expansionnistes. Mais bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi, hein, vous réduisez vos déficits publics et la croissance accélère. Et donc les pays qui obtiennent ça, donc à nouveau systématiquement, profitent d'une baisse du taux d'épargne qui semble lié à la conjugaison de baisse de dépenses publiques sans hausse des impôts. Et vous savez que l'interprétation traditionnelle de cela, c'est que les ménages, les individus, voyant la baisse des dépenses publiques, anticipent qu'ils paieront moins d'impôts plus tard, donc consomment plus aujourd'hui. Mais même les auteurs de cette théorie, aujourd'hui, font une autocritique et des confessions. Donc il y a un papier très intéressant de Perotti, par exemple, qui explique ça, qu'en réalité, il semble bien que le résultat soit largement dû à ce qui a déjà été évoqué, c'est-à-dire à la mise en place, en même temps qu'on mettait en place la baisse des dépenses publiques, d'une politique monétaire très expansionniste, avec très forte baisse des taux d'intérêt, et d'une très forte dépréciation du taux de change. Hein, rappelez-vous, l'Italie en 93, l'Espagne en 93, le Canada et la Suède en 91, en 92, la Finlande en 91, 92. Donc tous ces pays ont déprécié considérablement leur taux de change dans un environnement international porteur, ce qui leur a permis d'avoir un boom des exportations et en conséquence la nécessité d'investir pour pouvoir continuer à exporter davantage. Donc il semble bien que la combinaison magique, c'est ne pas monter les impôts et baisser les taux et dévaluer. Alors, bon, c'est pas la peine de vous faire après une longue dissertation sur le fait que... Alors, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont au plus bas. Donc, on peut considérer que le côté taux d'intérêt, nous l'avons. L'État français se finance en ce moment à 10 ans, à peine au-dessus de 1,80%. Ce qui est d'ailleurs proprement miraculeux, mais enfin, est une bonne nouvelle. Par contre, vous connaissez le débat sur l'euro. Hein, l'euro est surévalué d'une 20aine de %, et nous n'avons pas de signe que ceci se corrige. Il faut d'ailleurs dans ce débat dire un mot du fait que même si la BCE décidait de faire baisser l'euro, il n'est pas du tout évident qu'elle y arriverait. Hein, donc les critiques de la BCE sont très exagérées, il me semble, puisque les banques centrales ne contrôlent pas les taux de change. Hein. La Banque d'Angleterre a mené une politique extraordinairement expansionniste et la livre sterling n'a pas arrêté de s'apprécier pendant qu'elle le faisait. Donc ne croyez surtout pas que l'euro est dans les mains de la BCE. Les choses sont beaucoup plus compliquées. Donc voilà, premier point. Il va sans doute nous manquer, pour réduire le coût de la baisse des dépenses, l'aspect change, hein, mais qui peut-on ? Alors, deuxième point, et je finis avec cela, évidemment, les modalités techniques, et ceci a déjà été évoqué, comptent énormément, et je voudrais donner 3 exemples et 3 illustrations du fait que les modalités techniques comptent énormément. Vous pouvez baisser des dépenses publiques en pensant que la baisse des dépenses va provoquer des effets sur l'équilibre économique qui la compenseront. Et un exemple très clair qui a déjà été évoqué sont les aides au logement. Vous savez que l'essentiel des aides au logement en France, et ceci est bien documenté, analysé par énormément d'études assez convaincantes, conduit à une hausse des prix des logements. C'est-à-dire plus on soutient la solvabilité des emprunteurs, plus ce surplus est accaparé par les promoteurs et ceci fait monter les prix. Donc si vous arrêtez les aides au logement, vous allez faire baisser les prix des logements. Alors, et ceci, évidemment, évitera que l'arrêt des aides au logement ait un effet de contraction. Alors il faut faire ça avec beaucoup de précautions, parce que quand vous faites baisser les prix des logements, vous avez un effet très dommageable sur les récents emprunteurs, par exemple. Donc il faut gérer la transition de façon prudente, mais on est capable d'imaginer des mesures de réduction des dépenses publiques qui, à moyen terme, n'ont pas d'effet négatif sur l'économie. Deuxième exemple que je voudrais donner, c'est les retraites. Imaginez que nous décidions à nouveau de réduire les dépenses de retraite en France. Si vous faites cela en baissant le niveau des retraites, vous allez normalement provoquer un supplément d'épargne. Les futurs retraités devront épargner plus pour compenser le fait que leur retraite sera plus faible. Et un supplément d'épargne veut dire une chute de la consommation. Par contre, si vous réformez les retraites en repoussant l'âge de la retraite, vous allez au contraire, normalement, fabriquer une baisse de l'épargne. Par un argument totalement sordide, qui est que si vous ne vivez pas longtemps à la retraite, vous n'avez pas longtemps besoin d'épargner beaucoup. Le truc est assez horrible, mais c'est comme ça. Une même réforme peut soit fabriquer une contraction de l'économie à court terme, soit une stimulation de l'économie à court terme, suivant la modalité technique que vous utilisez. Et je pense qu'on ne réfléchit pas assez à cela, c'est-à-dire au choix de modalité technique en réfléchissant à leurs effets sur l'économie à court terme. Et la troisième question, et je m'arrête là que je voudrais poser, je m'arrête là Jean-Marc, est celle qui a déjà été évoquée de la technologie globale. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit avoir une technologie globale qui consiste à réduire à peu près toutes les dépenses publiques pour réduire la dépense, ou est-ce qu'on doit faire des choix centrés sur un petit nombre de dépenses dont on décide que l'État ne s'occupe plus, en gros, hein. Et on peut effectivement être guidé ici par les écarts entre le niveau de dépenses publiques par secteur en France et dans les autres pays. Vous savez que l'écart entre la France et le reste de la zone euro vient uniquement de 4 postes de dépenses publiques. Les retraites, hein, où on dépense 3 points de PIB de plus que les autres, le logement, 1 point de PIB, la famille, 1 point de PIB, et le militaire, 1 point de PIB. Et il me semble que, en tout cas, la question vaut d'être posée, de savoir est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux réformer radicalement un ou plusieurs de ces postes, plutôt que d'étaler l'effort de réduction des dépenses publiques sur la quasi-totalité de la dépense. Certainement, le multiplicateur budgétaire associé à une réduction de la quasi-totalité des dépenses est très élevé. Quand vous gelez les salaires des fonctionnaires, que vous baissez les retraites, etc., etc., vous avez certainement un effet très négatif sur la demande et une perte de croissance à court terme importante. Si l'État se désengage massivement d'un secteur d'activité et l'organise autrement, il n'est pas évident que ceci, ce qui s'est fait dans d'autres pays, par exemple dans la santé en Allemagne, il n'est pas évident que vous ayez un multiplicateur aussi important. Voilà. Donc, conclusion de tout ça, ça ne va pas être simple. Et malheureusement, on peut avoir la crainte que la façon dont les choses ont l'air de devoir être menées en France pourrait conduire à une perte importante de demande à court terme en conséquence de la baisse des dépenses.
Je crois qu'on avait déjà compris que ça ne serait pas simple. Une question que je t'envoie tout de suite. Est-ce que l'Allemagne est un modèle d'efficacité en matière de dépenses publiques? On a déjà commencé à parler d'efficacité de dépenses publiques. Et deuxième point, par rapport à ce que tu soulignais sur la question de l'endettement, les États-Unis sont beaucoup plus endettés. Est-ce que ça pose un problème différent du problème français ou pas?
Alors, les États-Unis sont beaucoup moins endettés. Est-ce que les États-Unis sont un des pays qui fait un travail tout à fait bizarre que nous devrions faire, mais qui a été fait dans le cadre d'un certain nombre de commissions? Les Américains intègrent dans le calcul de leur dette publique les engagements futurs non provisionnés de l'État fédéral. Donc c'est la dette publique des États-Unis aujourd'hui est officiellement de 100% du PIB, mais en réalité, si on la calcule comme la nôtre, elle est de 70%. Et il y a 30% du PIB qui sont les engagements futurs de l'État fédéral, en particulier vis-à-vis du système de retraite publique des États-Unis. Donc ils ont une dette publiée qui inclut la dette non encore émise, mais qui viendra à cause... Alors heureusement que les autres pays ne font pas ce calcul, puisque ce calcul a été fait dans le cadre de la commission qui était dirigée par Michel Pébrot. Donc si on fait ce calcul, on trouve que la France a une dette publique incluant les engagements futurs qui est de l'ordre de 3 années de PIB, et l'Allemagne un peu plus de 4. Enfin, donc les chiffres sont affreux. Donc les Américains, en réalité, ont une dette publique faible, si on la calcule comme nous.
Sur le modèle allemand, donc. Enfin, modèle, dans les travaux de la dépense publique.
Ouais, dans les travaux qu'on a faits, l'Allemagne ne sort pas comme le pays efficace. Les pays efficaces, sans surprise, sont les pays nordiques. C'est le Canada, la Finlande, la Suède, le Danemark, etc. Qui eux, ont l'air d'avoir une qualité de service public très élevée relativement à leur niveau de dépense.
Et une question pour vous, Selma. Un point qui n'a pas été évoqué. En France, on a relativement moins d'inégalités que dans beaucoup d'autres pays développés. Et c'est aussi le fruit de la dépense publique.
Oui, c'est une réflexion que je me faisais en préparant. Si on avait été aux États-Unis aujourd'hui, où le débat sur l'ouvrage de Thomas Piketty est très présent, le titre de cette table ronde aurait peut-être été « Réduire la dépense sans freiner la croissance », ni augmenter les inégalités. Une des raisons pour lesquelles la question n'a pas été posée en ces termes, je pense, est qu'effectivement, ces travaux montrent que cette question d'augmentation des inégalités, qui est très présente dans le débat aux États-Unis et aujourd'hui, se pose de façon assez différente dans notre pays, où les inégalités par le haut et par le bas ont relativement peu augmenté pendant la crise en comparaison internationale. Je pense que c'était pas l'objet d'aujourd'hui, mais c'est clairement dans la... C'est ce qui a été dit en introduction aussi. On est dans une période où la réduction de la dépense... qui effectivement répond à, n'est pas un but en soi, mais répond à une demande, une question de soutenabilité des finances publiques dans leur ensemble, et donc derrière à une question de niveau et d'évolution de la dette publique, renvoie aussi à la question de notre modèle social. Toute cette question de l'efficience des dépenses sociales, c'est quand même se demander, est-ce qu'on sait faire aussi bien, y compris en termes de réduction des inégalités, sans dépenser plus ? Et on a un certain nombre d'exemples. Je vais prendre un exemple. On peut réduire les inégalités du modèle social, et c'est ce qu'on voit dans les analyses un peu prospectives qu'on peut conduire au Commissariat général à la stratégie et à la prospective. On a tendance à dépenser beaucoup pour réparer ex post, pour indemniser les chômeurs, pour réparer les inégalités, pour prendre en charge des élèves qui décrochent, des décrocheurs du système scolaire, qui sont 140 000 chaque année. On pourrait investir davantage en amont, réduire le décrochage scolaire en amont, investir sur l'école primaire permet de réduire les dépenses de réparation et de réduire les inégalités.
Ça, c'est un point évidemment tout à fait crucial. Nous allons continuer le tour de piste avec Jean-Claude Mailly, donc secrétaire général de Force ouvrière, qui a fait comme tout le monde ici des études d'économie, qui a travaillé ensuite dans un organisme public, qui a travaillé à la CNAM avant de passer permanent FO depuis maintenant plus de 30 ans. Donc vous, par rapport à ce débat sur la réduction de la dépense publique et l'impact sur la croissance, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui vous paraît possible? Quelles sont les méthodes? À vous la parole.
D'abord, merci pour l'invitation. Je dirais le hasard des calendriers fait que cet après-midi, je vais défiler pour demander une augmentation des dépenses publiques, puisque on va demander une augmentation du point d'indice dans la fonction publique. Ceci étant, moi, je suis d'accord, notamment pour dire que le niveau de dépenses publiques n'est pas un objectif en soi. Ça me paraît quelque chose d'important, mais je dirais à la limite, pas plus que les 3% de déficit budgétaire sont un objectif en soi. Pourquoi 3, pourquoi pas 2 Et que d'ailleurs, on parle beaucoup plus de déficit budgétaire que de niveau de dépenses publiques et de dette publique dans notre pays. On a très bien vu que, y compris depuis la dernière période de crise, depuis 2007, les dépenses publiques ont augmenté de manière assez importante la première année de crise, d'ailleurs, pour faire face, c'est notamment dû à une augmentation des dépenses sociales due aux problèmes, différents problèmes posés. Alors, que nous ne disons pas non plus, il faut laisser... les dépenses publiques s'envolaient, il faut tenir compte de rien, mais je crois que ce qui nous apparaît important, c'est notamment une question de méthode. Qu'est-ce que l'on veut faire? Quels sont les problèmes qu'on se pose? Est-ce qu'on est dans une logique, il faut, je synthétise, obligatoirement dans le cadre des engagements européens de la France, du pacte budgétaire européen par exemple? Est-ce qu'il faut aller le plus vite possible à 3% de déficit budgétaire, donc ça correspond macroéconomiquement à temps de réduction des dépenses publiques et sociales, puis ensuite on regarde comment on fait. Ou est-ce que la bonne méthode, ce n'est pas ce que nous réclamons depuis 7 ans, j'espère qu'on va bientôt l'obtenir, c'est quand on parle de dépenses publiques, et je rappelle que dans la masse des dépenses publiques, il y a la masse des dépenses de protection sociale et de santé qui pèsent pour la moitié à peu près, sur l'ensemble des dépenses publiques. Ça veut dire un vrai débat sur le rôle, les missions du service public dans la République, pour aller vite, puisque si nous sommes tous attachés à la République et à ses valeurs, je prends la valeur d'égalité au sens républicain du terme, c'est la valeur d'égalité de droit. Donc, quel est le rôle, quelles sont les missions du service public? Et après, on garde les choses. Ce débat-là, ça fait 7 ans que nous le réclamons, nous ne l'avons jamais eu. On va peut-être l'avoir à travers le commissariat. Moi, je me félicite parce que c'est Force ouvrière qui a demandé le rétablissement d'un commissariat au plan qui s'appelle Commissariat à stratégie et à prospective. C'est une des missions, mais ils l'ont tellement surchargé le commissariat que c'est compliqué, mais avoir enfin ce débat sur le rôle et les missions du service public. Sinon, on a une lecture et une politique qui est complètement aveugle. C'est quand même ce qui se passe depuis quelque temps. On n'a pas eu le débat, je dirais, sous l'ancienne majorité, on a eu la révision générale des politiques publiques, mais logique aveugle de réduction. Actuellement, on a la modernisation de l'action publique. Bon, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux méthodes. Et on arrive à des solutions, pardonnez-moi, que parfois on peut trouver stupides. Ou une lecture de court terme qui est pénalisante, y compris pour la dette publique. Je vais prendre un exemple concret. Quand on décide de stabiliser les effectifs dans la fonction publique, alors il y a les ministères dits prioritaires, et par définition, les autres ne le sont pas. Quand on réduit le nombre de douaniers, on ne se pose pas la question de savoir si, quand on fait moins de contrôles, on fait moins de rentrées fiscales et de rentrées sociales. Les douanes rapportent à peu près, si ma mémoire est bonne, 65 milliards d'euros de rentrées fiscales et de rentrées sociales chaque année. Le fait qu'on diminue les moyens fait qu'elles exercent moins de contrôles. Or, il y a toute une série de contrôles indispensables. Quand il y a des problèmes sanitaires, type crise de l'Ebola, virus Ebola ou Fukushima, les douanes sont obligées de concentrer leurs moyens sur ces crises sanitaires. Ça veut dire que les autres contrôles se font beaucoup moins. Sur les 35 millions de trafic Internet qui passent par Roissy, il n'y a quasiment pas de contrôle. Sur 36% des jouets contrôlés qui rentrent sur le territoire national, enfin sur les jouets qui rentrent sur le territoire national, 36% ne sont pas conformes aux normes. Donc ça signifie que si on a une vision de court terme, on va dire, bah oui, il faut faire une logique, comme le disait Selma, de rabot, on diminue partout. On ne se pose pas la question de savoir est-ce que c'est efficace, y compris en termes de dette ou de recettes publiques. Si on réfléchit un peu, on dit, bon voilà, c'est quoi la mission? Comment on organise Alors je prends l'exemple des douanes, mais je pourrais prendre l'exemple de l'hôpital public. Pourquoi on ne réforme pas, alors qu'on le demande depuis longtemps, pas les seuls, les médecins le demandent, des directeurs d'hôpitaux le demandent, la loi hôpital, patient, santé, territoire et le mode de tarification actuel des hôpitaux publics qui est inflationniste. Donc ça fait partie des débats de fond que nous n'avons pas. Et aujourd'hui, quand je regarde par exemple les annonces hein, sur les 50 milliards de réduction ou les 54 entraînent, on a bien compris, c'est pas... Bon. Je prends un exemple. Sur les 11 milliards de réduction budget des collectivités territoriales, quand je discute aujourd'hui avec des présidents de conseils généraux, et je leur dis, alors ça va donner quoi dans votre conseil général? Si on applique logique de rabot, voilà, ça va faire 35 millions, soit ça dépend du conseil, d'économie. Donc ça veut dire que je vais fermer tel ou tel service du conseil général. Ou quand on parle de décentralisation, si demain, hypothèse, ce n'est pas de la responsabilité syndicale, on supprime les conseils généraux, que deviennent les missions des conseils généraux? Est-ce que certaines, on peut dire à la limite, bon, les collèges, allez, on passe à la région? Je n'ai pas le sentiment que les régions veulent y récupérer toute la partie sociale. Donc, est-ce qu'on transfère le social à l'État? Mais comment on fait, puisque 2/3 des effectifs de l'État dans les départements hors préfecture de région ont été supprimés depuis quelques années? Alors, concrètement, comment on fait? Voilà. Donc, c'est ce débat de fond qui n'est jamais posé, qui est indispensable. Donc, ça génère à la fois un manque de visibilité. Si l'économie, c'est aussi de la confiance, là, il n'y est pas, c'est clair, on ne sait pas où on va. Et quand vous avez, comme aujourd'hui, une journée sur l'appel de l'ensemble des syndicats dans la fonction publique, les médias disent, il y a le point d'indice, bien sûr qu'il y a le point d'indice, c'est une évidence, mais il n'y a pas que le point d'indice. Il y a aussi, c'est quoi notre rôle? Quelles sont réellement nos missions? Quels moyens on a pour exercer nos missions? Et si on ne pose pas ces problèmes-là, ça va créer des tensions à chaque fois, et en plus, je pense que ça peut être contre-productif, y compris sur le niveau des recettes fiscales et le niveau de la dépense publique.
Merci Jean-Claude. S'il y a un endroit où ce débat devrait avoir lieu, c'est ici. C'est même pour ça qu'il a été créé tout de même. Et donc on va maintenant se tourner vers les députés.